Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce mardi 15 octobre, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi de bioéthique et notamment son article phare légalisant l'accès à la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Une décision grave pour nombre de chrétiens qui se désolent que la bioéthique à la française soit de plus en plus gagnée par un libéralisme débridé. Alors au lendemain de ce vote, une question vient, crue, douloureuse, à quoi sert un père ? Devant tant de bouleversements, ce sont en effet des questions aussi désarmantes que l'on en vient à se poser. Aussi, même si ce projet de loi doit être examiné au Sénat, c'est d'ores et déjà cette question que je vous propose d'affronter ensemble ce matin. À quoi sert un père ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question difficile, Aude Mirkovic, vous êtes maître de conférence en droit privé, porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfant et auteur d'un ouvrage, La PMA, un enjeu de société. Bonjour. Bonjour Aude. Voilà. Bonjour Aude.
Oui, allô ?
On va y arriver, voilà, c'était Bonjour. Un petit problème technique, ça n'était pas de votre faute. Annie Breteau, vous êtes psychiatre retraité en milieu hospitalier et psychanalyste, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc Moschetta, vous êtes enseignant en théologie à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, au sein de l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
On profite de votre présence, Aude Mirkovic, pour commencer cette émission avec vous. Je le disais en introduction, donc le projet de loi a été voté par l'Assemblée nationale, il doit passer maintenant au Sénat. Qu'est-ce que vous connaissez un peu du calendrier de ce projet de loi ? L'affaire est-elle bouclée ?
Non, bien sûr, l'affaire n'est pas bouclée, parce que pour l'instant, ce texte, comme vous l'avez dit, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il est maintenant devant une commission au Sénat avant d'être examiné par le Sénat en première lecture et ensuite ça reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, les parlementaires, les Français commencent à prendre conscience un petit peu de ce que contient et de ce que signifie ce projet. Nous sommes au début du processus législatif et cette prise de conscience a vocation à s'amplifier jusqu'à, nous l'espérons, à ce qu'on réalise l'injustice qu'il y aurait à voter, à institutionnaliser la privation de père.
Alors, Aude Mirkovic, l'association, je voulais quand même faire un petit point, on va dire, d'actualité avec vous. L'association donc des juristes pour l'enfant, dont vous êtes le porte-parole, fait partie du collectif Marchons Enfants, qui avait appelé à manifester donc le 6 octobre dernier, qui a appelé à manifester à d'autres dates, la prochaine étant le 1er décembre. Quel est le retour un peu de l'association sur cette mobilisation et entre autres sur cette différence de chiffres assez vertigineuse ?
Alors, cette mobilisation a été énorme. Inattendu dans son ampleur. Nous, on pensait bien qu'il y aurait beaucoup de monde parce que ça fait des années que nous expliquons et que beaucoup de gens commencent à comprendre que les lois qu'on a eues avant, notamment sur le mariage, etc., n'étaient que des préalables pour, en réalité, ce qui s'annonçait, à savoir la PMA. Donc maintenant, nous y sommes. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans les concepts et les symboles, il s'agit vraiment des enfants. Des enfants, et c'est pourquoi cette mobilisation vraiment gigantesque, finalement, n'est pas étonnante. Hein, elle était espérée.
Gigantesque, ça veut dire quoi, juste il ne s'agit pas de parler que de chiffres, mais c'est vrai qu'entre 600 000 et 70 000 ou 40 000, on finissait par plus savoir à quel soin saint se vouer, comme on dit.
Alors écoutez, la préfecture avait négocié avec la coordination un parcours prévu pour 200 000 personnes. Ils attendaient 200 000 personnes. Très rapidement, dès le début de la manifestation, ce parcours a été saturé. Et ils ont été obligés d'ouvrir en urgence un deuxième parcours équivalent. Donc déjà, je vois même pas comment est-ce qu'on pourrait rester sur ces chiffres ridicules de 70 000 personnes ou je sais pas quoi. Dès le début de la manifestation, 50 000 drapeaux ont été distribués. On voit bien sur les photos que la place Montparnasse était couverte de drapeaux, mais que tout le boulevard Montparnasse derrière jusqu'à Port-Royal, le boulevard Saint-Michel, il n'y avait plus de drapeaux là-bas. Donc, vous voyez, mathématiquement, on a vraiment des éléments pour être sûr qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes, et en tout état de cause, peu importe, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est la plus grosse manifestation du quinquennat, et pourtant, aucune réaction politique. Silence radio du gouvernement, du président, du premier ministre. C'est comme si les Français, les citoyens n'existaient pas.
Alors, Audemir Kovic, vous avez écrit un livre, donc « La PMA, un enjeu de société », paru aux éditions Artege, avec ce sous-titre « Va-t-on enfin prendre les droits de l'enfant au sérieux ?» Vous êtes, je l'ai dit au début de l'émission, maître de conférence en droit privé. Il y a beaucoup de choses dans ce livre dont je recommande la lecture. Je le citerai à la fin de l'émission avec d'autres ouvrages, peut-être pour prolonger notre propos. Il y a un sujet que vous abordez pas. Alors, ces sujets, en fait, viennent en cascade. C'est que dit la loi française, en fait, de la place du père ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce sujet?
Alors le droit a toujours eu comme objectif de sécuriser la filiation des enfants, que ce soit la maternité ou la paternité. Pour la maternité, ça a toujours été simple, parce que la mère est la femme qui accouche, et ça se traduit par l'adage « la mère est toujours certaine ». Pour le père, ça a toujours été plus compliqué. Et d'ailleurs, on se souvient au 19e siècle de la situation des enfants nés hors mariage, qui n'avaient pas de possibilité de faire établir leur filiation paternelle. Ils dépendaient du bon vouloir de leur géniteur de les reconnaître ou pas. Le combat du droit pendant le 19e, le 20e siècle, ça a été justement de sécuriser la filiation des enfants, y compris en dehors du mariage, par l'ouverture de cette action en recherche de paternité au profit des enfants, jusqu'à ce que tous les enfants en bénéficient, quelles que soient les circonstances de leur conception et de leur naissance. Et là maintenant, on assiste à un projet, à nouveau, de réintroduire en droit français des enfants qui n'auront pas de possibilité légale de rechercher leur filiation paternelle. Donc, d'un point de vue juridique, c'est une grave régression dans les droits de l'enfant. Et autrefois, les enfants dépendaient du bon vouloir du père, finalement, pour voir leur filiation paternelle établie. Et bien maintenant, ils vont être soumis au désir et au projet de leur mère pour avoir ou non une filiation paternelle.
Alors on entend aussi parler souvent d'une forme d'érosion du droit qui concerne le père quant à ses prérogatives. J'ai souvenir d'un article dans l'Express de la semaine dernière qui caricaturait cela un peu en parlant par exemple du droit de la fessée ou de correction en disant bon, ces droits s'émoussent mais c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à citer ? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent depuis ces 10, 20, 30 dernières années et qui parlent un peu d'une forme de transformation du droit du père?
C'est pas vraiment le droit du père, c'est le droit de la mère aussi, hein, parce que le droit met sur un pied d'égalité dans l'éducation de l'enfant le père et la mère, même responsabilité juridique, et ça c'est très bien, mais l'égalité, la complémentarité du père et de la mère appréhendée comme... En même droit, même devoir vis-à-vis de l'enfant, c'est une très bonne chose. Mais là, aujourd'hui, ce que s'apprête à faire le projet de loi, c'est carrément à supprimer le père. Donc, c'est vrai que les prérogatives des parents, au fil des réformes, sont, on peut dire quelque part, un petit peu émoussées. Hein. C'est vrai qu'on constate un manque de confiance du législateur dans les parents, qui sont de plus en plus surveillés sous prétexte d'être aidés. Alors parfois c'est très bien, et parfois ça peut être aussi invasif quand c'est généralisé, mais c'est vrai que ce manque de confiance, cette suspicion parfois à l'égard des parents, elle s'explique aussi peut-être par la fragilisation du statut parental qu'on est en train d'organiser par ailleurs. Hein. On fait des enfants de donneurs anonymes, maintenant on va permettre de faire des enfants sans père. Finalement, la filiation est censée reposer de plus en plus sur le projet, sur l'intention, sur la volonté des adultes. Et tout ça, c'est très fragile. Hein, on prive la filiation de son socle solide, objectif, à savoir la référence à l'engendrement de l'enfant. Et ça se répercute aussi sur ce manque de confiance, du coup, à l'égard des enfants, parce que la volonté, c'est fragile.
Vous citez dans votre ouvrage à de nombreuses reprises, et on a pu lire ça aussi dans la presse, cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée par l'ONU en 1989 et ratifiée par la France en 1990, qui dit qu'un enfant a le droit, dans la mesure du possible, d'être élevé par ses parents, par son père et par sa mère. Elle ne dit que ça, cette convention ?
Alors, le texte exactement dit que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors, on peut tourner les choses en tous les sens. Le père fait partie des parents. Et certains voudraient interpréter ce texte comme disant « les parents de l'enfant, c'est ceux qui ont décidé de l'être ». Mais si on dit que l'enfant a le droit de connaître ceux qui ont eu l'intention d'être ses parents, et donc qui ont pu décider entre eux qui étaient les parents de l'enfant, on voit bien que le texte est complètement vidé de sa substance et qu'il ne reste plus rien dans le droit de l'enfant et qu'en fait on est passé au droit à l'enfant. Donc aujourd'hui, ce texte, certains essayent de relativiser sa portée justement sur le fait que le mot « parent » n'est pas défini, mais à moins de vider les mots de leur sens, quand on dit que l'enfant a le droit de connaître ses parents, ce sont bien sûr ceux dont il est issu. Parce que la filiation, elle ne dit pas à chacun qui a voulu être son père ou sa mère, elle dit à l'enfant de qui il est né. Et c'est pour ça que la filiation découle de l'acte de naissance. L'acte de naissance, il dit à chacun de qui il est né. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme inclut dans le droit au respect de la vie privée le droit pour chacun de connaître son ascendance et de faire reconnaître juridiquement sa filiation. Donc son ascendance, hein, c'est bien quelque chose d'objectif qui renvoie l'enfant à son père et à sa mère. Donc aujourd'hui, on est face à une alternative simple, respecter les droits de l'enfant, pas seulement les proclamer, mais les respecter, et ça veut dire renoncer à des pratiques qui leur portent atteinte, ou alors méconnaître les droits de l'enfant. Dans ces cas-là, il faudrait l'assumer, et de toute façon, aujourd'hui, on ne l'assume pas, mais ce sont des bombes juridiques à retardement, parce qu'un jour ou l'autre, les enfants demanderont des comptes de leur lignée paternelle ainsi effacée. Ils engageront la responsabilité de l'État français et peut-être aussi de ceux qui auront organisé leur venue au monde dans ces circonstances.
Audemir Kovic, à vous entendre, en fait, la France se met comme en porte-à-faux avec elle-même. C'est-à-dire, en fait, on ratifie une convention internationale et après, on peut décider de légaliser quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'on a ratifié. On a un peu de mal à comprendre.
Malheureusement, c'est exactement ça, parce que la Convention des droits de l'enfant, c'est le texte le plus ratifié au monde. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les droits de l'enfant font l'unanimité, on va dire. Mais tout le monde est d'accord pour proclamer les droits de l'enfant. Mais au moment de les respecter, eh bien là, c'est plus compliqué. Et en fait, les citoyens, et du coup dans la foulée le législateur, ont du mal à accepter que la réalisation des désirs des uns trouve sa limite dans le respect des droits de l'autre. Mais ça, c'est le propre, c'est la définition de l'état de droit. Donc c'est pourquoi la conception d'enfants par des donneurs, et en l'occurrence dans le projet en plus qui obstrue la lignée paternelle de l'enfant, donc qui le prive tout simplement de la moitié de sa généalogie, eh bien ce n'est pas compatible avec les droits de l'enfant. C'est-à-dire ça ne me réjouit pas, je préférerais que tout soit simple, mais le fait est que ça ne l'est pas, et il faut accepter que les désirs, et y compris le désir d'enfant, trouvent leurs limites dans le respect des droits de l'enfant. Et là, on a beaucoup de mal à faire ça, mais justement, c'est ce à quoi nous travaillons, d'essayer de contribuer à cette prise de conscience. Il ne s'agit pas juste de créer du bonheur avec la PMA sans père, il s'agit aussi de créer des difficultés. Il s'agit de créer des souffrances, et réparer une souffrance en suscitant une autre souffrance, ce n'est pas une solution. Alors, après ça, que des enfants, que des gens n'aient pas de père, ne connaissent pas leur père, je veux dire, c'est la vie. Et si une femme fait le choix d'avoir un enfant, entre guillemets, toute seule, parce qu'un couple de femmes n'a jamais un enfant, c'est l'une d'elles qui est inséminée par un donneur, et l'autre s'investit auprès de l'enfant. Donc si une femme fait le choix d'avoir un enfant, entre guillemets, toute seule, eh bien, elle prend ses responsabilités, et elle expliquera le moment venu à son enfant pourquoi il n'a pas de papa. Et à la limite, ça ne nous regarde pas. Mais là, c'est pas du tout ça de ça dont nous parlons. Ce qui est demandé, c'est que la loi dise à cet enfant: tu n'as pas d'action en recherche de paternité. Tu n'auras jamais le droit de faire établir ta lignée paternelle. Et à partir du moment où la loi est sollicitée, alors cette fois-ci, en tant que citoyen de la République française, tout le monde est concerné. Et pour faire ce qui est en notre pouvoir, pour que cette injustice ne soit pas légalisée.
Alors, d'aucuns pourraient vous répondre, et c'est ce qu'on peut lire aussi dans la presse, que la levée de l'anonymat des donneurs peut être une manière de répondre à ce besoin de connaître son père et donc de s'inscrire dans une généalogie ou une filiation. Vous citez entre autres donc Arthur Kermal-Welzen, qui a beaucoup œuvré pour cela, qui lui-même est né sous X. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ?
Alors, la levée de l'anonymat, qui en effet prévu dans le projet de loi, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où enfin, pour la première fois, l'enfant est pris en considération. Donc ça fait 30 ans que la PMA a été légalisée en France et c'est la première fois que l'enfant est pris en compte. Mais est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr que non. Parce que qui peut sérieusement penser que le nom et le prénom du donneur à la majorité de l'enfant, déjà c'est bien tard, si c'est une information cruciale, c'est trop tard, 18 ans. Donc le nom et le prénom à la majorité du jeune, est-ce que ça pourrait compenser toute une enfance, une adolescence et ensuite toute une vie sans lignée paternelle ? C'est-à-dire que même le rapport du député de Touraine, donc rendu pour la mission parlementaire, propose de remédier à la souffrance par la levée de l'anonymat. Mais c'est bien l'aveu que la conception des enfants par des donneurs crée une souffrance. Donc au lieu de proposer une solution qui n'en est pas une, il convient de ne pas créer du tout cette souffrance. Et la levée de l'anonymat, finalement, est une sous-mesure qui n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Et en plus de ça, il ne faut pas s'imaginer que ce sera la solution miracle, hein, parce que est-ce que quelqu'un a déjà vraiment réfléchi à ce que signifie la levée de l'anonymat ? C'est-à-dire quel genre de relation est-ce que les jeunes vont pouvoir avoir avec leur donneur, avec les autres enfants du donneur, avec les autres jeunes qui sont issus du même donneur ? C'est-à-dire que ces relations ne peuvent pas être anodines, et en plus elles vont bouleverser les équilibres familiaux qui se seront constitués entre-temps, et on le voit bien dans le dernier livre d'Arthur Kermavelsen que vous avez cité. L'année dernière, il y a un an, il a retrouvé son donneur par une enquête génétique. Il a dit clairement « je ne cherche pas un père ». Un père, j'en ai déjà un, c'est mon père légal, celui qui m'a éduqué, celui qui m'a élevé. Et tout au long du livre, quand il a rencontré son donneur, il explique bien qu'il ne voulait pas l'appeler son père génétique. Eh bien, les trois dernières pages du livre, il conclut « en fait, c'est mon père génétique ». C'est-à-dire que, voilà, on a beau dire dans la filiation, tout ce qui compte, c'est l'amour, c'est le désir que l'enfant ait été désiré, la biologie n'importe pas, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. La biologie n'est pas indifférente en matière de filiation, et si dans certains cas, certaines filiations sont privées, eh bien, c'est quelque chose, mais ça n'est pas du tout une raison pour délibérément organiser la venue au monde d'enfants qui seront privés de ce lien biologique, parce que ça va faire des dégâts, y compris avec la levée de l'anonymat.
Aude Mirkovic, une dernière question avant qu'on fasse une pause. Pardonnez la naïveté de ma question, je poserai la même à mes autres invités, surtout à Annie Breteau. On peut vous écouter attentivement, être tout à fait d'accord avec vous, et puis lire dans la presse, dans la journée même, en cherchant un petit peu, un juriste qui va nous dire tout autre chose. C'est la même chose, on va dire, parfois du côté des psychiatres ou des pédopsychiatres, même s'il y a une dominante, on en reparlera. Que pourriez-vous dire aux simples citoyens que nous sommes de ces apparentes contradictions qui laissent perplexes ?
Moi, ce que je dis, c'est que les Français qui se pensent favorables à l'extension de la PMA, hein, à la PMA pour toutes, bon, qui est en réalité la PMA pour tous, hein, parce qu'à partir du moment où on peut accéder à la PMA sans infertilité médicale, en réalité, c'est la PMA pour tout le monde, non seulement les femmes, mais aussi les couples fertiles. Et ça, c'est le grand marché de la procréation qui est derrière. Il faut en avoir conscience. Mais l'objet de cette émission, c'était la PMA pour les femmes, donc je me suis limitée à ça. Donc les Français qui se croient favorables, qui se pensent favorables à cette mesure, ils le sont parce qu'on leur a demandé « est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on donne la joie, le bonheur à certaines femmes d'avoir des enfants ?» Bah, évidemment qu'ils sont d'accord. Mais si on leur posait la question de façon plus précise, est-ce que vous voulez que la loi interdise à certains enfants toute possibilité de rechercher leur père ? Est-ce que vous voulez que la loi organise la vente et l'achat du sperme ? Parce que faut pas se leurrer, il faudra acheter du sperme, que ce soit en France ou que ce soit au Danemark. On pourrait aussi poser la question, quelle est la maladie que vous voulez dérembourser pour pouvoir financer des PMA pour des personnes qui ne sont pas malades ? Vous voyez, et on pourrait allonger la liste des questions. Et alors, à partir du moment où on réalise en réalité de quoi on parle, eh bien, je pense que cette fois-ci, les gens se disent « Non, en fait, on ne veut pas de cette société-là. Ce n'est pas ce genre de société qu'on veut laisser à nos enfants. Il faut le dire à nos députés, il faut le dire maintenant à nos sénateurs, puisque le texte arrive au Sénat. »
Merci beaucoup, Aude Mirkovic. Vous allez nous quitter. Je rappelle le titre de votre livre « La PMA, un enjeu de société » paru aux éditions Arthège. On fait une courte pause et on retrouve nos autres invités pour cette émission au titre désarmant « À quoi sert un père ?»
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À quoi sert un père? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Il y avait en début d'émission donc Aude Mirkovic, maître de conférence en droit privé et auteur donc d'un ouvrage, entre autres La PMA, un enjeu de société, paru aux éditions Arthège. Avec nous en plateau Annie Brotteau, psychiatre retraité en milieu hospitalier et psychanalyste, et Jean-Marc Moschetta, enseignant en théologie à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, on fait ça un peu par séquence, mais du coup, chacun apporte son éclairage pour essayer de répondre petit à petit à cette question. À quoi sert un père? Ma première question, tout simplement, Annie Brotteau, d'ailleurs qui s'adresse aussi à Jean-Marc Moschetta, je l'ai dit en introduction et puis je l'ai dit aussi à Aude Mirkovic, on est un peu désarmé face à ces questions. Est-ce que parfois, on va dire, chaque professionnel que vous êtes dans votre domaine de compétences, Annie Brotteau, est un peu désarmé par cette question, à quoi sert un père? Faut-il en fait expliquer l'inexplicable?
Écoutez, quand j'ai entendu le titre de votre émission, la première chose que j'ai pensé, c'était un peu en forme de boutade, c'était « le père ne sert à rien, il est juste indispensable ». Voilà, donc effectivement, le père... pour nous, psychanalystes, c'est une question de corps, c'est une question de parole et c'est une question de désir. Alors, le corps est évidemment...
Alors, commençons par le corps, oui, expliquez-nous.
Voilà. Le corps est évidemment différent de celui de la mère. Hein. Et ça se vérifie dès la grossesse. Hein. Dès la grossesse, on parle maintenant beaucoup d'aptonomie, hein, donc la façon dont les deux parents peuvent entrer en contact avec leur enfant encore en gestation. Donc, le père peut poser sa main sur ce ventre qui grossit et on voit que le bébé vient se lever contre la paroi du ventre. C'est assez impressionnant. Hein,
Et qui réagit parfois différemment aussi en fonction de la mère ou du père.
Tout à fait. Et il y a la voix aussi, hein, la voix du père qui est différente, bien sûr, de la voix de la mère. Et puis, quand l'enfant sera au monde, bien qu'il sera porté dans les bras paternels, il fera aussi une nouvelle expérience de ce corps différent, qui a une odeur différente, qui le porte autrement que la mère ne le porte. Et même si le père berce l'enfant, même s'il lui change sa couche, même s'il lui donne le biberon, même s'il fait des gestes qui sont classiquement attribués à la maman, eh bien, il ne le fait pas exactement de la même façon. Et donc, c'est déjà, hein, très précocement, une introduction à ce qu'on appelle l'altérité. Hein, donc, le contact avec un être humain qui est autre que la mère et qui va d'emblée permettre à l'enfant progressivement, bien sûr, de se défusionner d'avec la maman, de sortir de cette espèce de dyade, hein, qu'on appelle, c'est-à-dire cette espèce de couple mère-enfant où l'un et l'autre se distinguent peu. Si on reste dans cette dyade, on est dans quelque chose de complètement mortifère et qui peut conduire à la psychose. Et c'est là que le père joue ce rôle tellement important de séparateur.
Alors, on y reviendra, hein, sur justement les conséquences que ça peut avoir, parce que vous dites que ça peut entraîner la psychose et on peut s'interroger juste pourquoi. À vous entendre, en fait, la différence, déjà, rien que sur le corps, n'est pas liée qu'au sexe, j'allais dire la génitalité. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le corps qui est signifiant pour l'enfant, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà, il y a pas de, comment dire, de distinction. Alors, si on doit passer au deuxième point, la parole, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire, la parole du père n'est pas celle de la mère? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, il y a un effet de parole réciproque, hein, qui est très important. C'est-à-dire que c'est la mère qui introduit le père auprès de l'enfant. Et c'est le père qui prononce la parole « Je suis ton père, tu es mon fils, tu es ma fille ». Et ça, on en a entendu parler tout à l'heure d'un point de vue juridique, hein, c'est-à-dire que soit les deux parents sont mariés à ce moment-là, le père est automatiquement, si on peut dire, le mari de la mère. Mais pourquoi ? Parce qu'il a donné sa parole au moment de l'engagement du mariage, hein, que ce soit un mariage civil ou religieux. Et également, on citait tout à l'heure l'adage fameux « la mère est certaine, le père est incertain ». Bon, le père est incertain, on a quelquefois recours à des analyses d'ADN pour savoir qui a donné sa petite paillette. Mais en fait, le père, c'est celui qui prononce la parole « tu es mon fils, tu es ma fille, je suis ton père ».
Pourquoi ? Hein ? Parce qu'on peut imaginer que le père, c'est juste celui qui est biologiquement le père, en fait. Pourquoi est-il si important pour les psychanalystes que vous êtes, ou les psychiatres ?
Parce que le père est affaire de parole, hein, avant d'être affaire de génétique. Il est affaire de parole, et par cette parole, il s'engage auprès de l'enfant et il lui confère une lignée qui est une lignée paternelle. Hein, il lui confère la double lignée, donc maternelle et paternelle, qui est si importante et dont l'enfant sera bien évidemment privé. S'il a été conçu par une petite paillette.
Quand vous dites que le père est d'abord une question de parole, alors on peut vous croire justement sur parole, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pour étayer votre propos, que disent, on va dire, les maîtres de vos pratiques, vous qui êtes psychiatre et psychanalyste. Comment vous justifiez en fait cette affirmation, le père c'est surtout de l'ordre de la parole ?
Ce sont des choses maintenant très classiques et bien connues. Hein. Par exemple, ce que Freud a appelé le complexe d'Œdipe, hein, le fait que l'enfant garçon puisse vouloir se marier avec maman quand il sera grand, l'enfant fille vouloir se marier avec papa quand elle sera grande. Et c'est le père qui, très simplement, dit ben « Non, tu peux pas te marier avec maman quand tu seras grand parce qu'elle est déjà mariée avec moi, ton père. » Et puis, au petit garçon, tu peux pas te marier avec maman. À la petite fille, tu peux pas te marier avec papa parce que je suis déjà mariée avec ta maman. Donc, c'est cette traversée de l'Œdipe qui permet à l'enfant de se structurer, au petit garçon de s'identifier comme garçon et plus tard comme homme et comme père, à la petite fille de s'identifier comme petite fille et plus tard comme femme et comme mère. Et c'est un moment délicat, hein, cette traversée de l'Œdipe. Quand elle échoue, on peut avoir affaire à des troubles mentaux éventuellement graves.
Alors justement, ça, j'aimerais qu'on fasse un coup de zoom ou une pause et qu'on ouvre un petit peu la porte de votre cabinet, parce que on peut se dire que chacun fait son complexe d'Œdipe ou différemment, qu'il est plus ou moins réussi, mais quand il est douloureux, en fait, ça donne quoi ? Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme illustration ou comme exemple ? Quand vous dites que ça peut causer des dommages graves, ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire que la tendance naturelle, si on peut dire, à la maman, c'est de vouloir son bébé pour elle toute seule. Hein. Vous rappelez quand on chantait « Elle a fait un bébé toute seule, elle a fait un bébé toute seule », on est en plein dedans aujourd'hui. Mon bébé, il est à moi, il est une partie de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal dans les toutes premières semaines de l'enfance. C'est ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire. Hein. Je suis tout au bébé et le bébé est tout à moi. Il y a une espèce de ravissement, hein, dans cette relation-là. Mais si on en reste à ce ravissement, eh bien, on a un enfant qui restera toujours le bébé de sa maman et qui n'arrivera pas à s'individuer. Et c'est là que ce père inutile mais indispensable va aider justement à décoller ce bébé de la sphère maternelle. Alors, quand je vous parle de danger, eh bien, effectivement, on a des dangers de troubles psychiques graves. Hein. On pourrait en détailler quelques-uns. Par exemple, la schizophrénie, hein, qui est une des maladies psychiques les plus graves. André Green, qui est un célèbre psychanalyste, qui a beaucoup écrit, disait que le fantasme de l'enfant schizophrène, ou du jeune schizophrène, c'est d'être né d'une union entre sa maman et lui-même. Voilà, ça paraît complètement fou comme fantasme, hein, mais est-ce qu'on ne le retrouve pas justement en risque, en tout cas, dans les projets de loi actuels?
Dans les projets de loi ou autour des projets de loi, il y a une théorie qui a été beaucoup avancée, c'est la théorie de l'attachement. Je crois d'ailleurs qu'elle a été citée par un certain nombre de parlementaires à l'occasion de toutes les auditions qui ont eu lieu. Cette théorie de l'attachement, donc élaborée dans les années 50 par un psychiatre, John Bowlby, qui donc laisse entendre que l'important est de trouver des figures d'attachement, et que ces figures d'attachement peuvent être des tiers. On a même une ministre qui nous explique donc que ça peut être la grand-mère à la place du père. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette théorie?
C'est pas très très difficile d'y répondre. La théorie de l'attachement est tout à fait exacte et vérifiée, hein, et on se rappelle des expériences de Conrad Lorenz où il avait adopté des petits canards, hein, qui le prenaient pour leur maman, et à ce moment-là, quand il nageait sur le lac, tous les petits canards le suivaient. C'était tout à fait mignon. Bon, alors l'attachement c'est tout à fait réel, mais l'attachement ne suffit pas. Et en disant ça, je cite un autre grand psychanalyste qui s'appelle Bruno Bettelheim, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'amour ne suffit pas ». Hein. Sans amour, on ne peut pas se développer, ça c'est très clair, mais l'amour ne suffit pas. Il faut l'amour et il faut aussi ce qui permet à l'enfant de se séparer, de s'individuer, de s'identifier comme garçon, de s'identifier comme fille, et de pouvoir plus tard avoir accès à une relation amoureuse, heureuse, de préférence avec une autre personne. Hein, voilà. Donc l'attachement, je dirais, c'est le point de départ. Et puis après, ben, y a tout le reste que je ne vais pas me citer à nouveau, que vous avez bien entendu.
Alors, donc, le corps, la parole, et vous vouliez parler aussi du désir.
Oui, les interdits que permet le désir et les interdits. Bon, les interdits structurants. Hein. Le désir, ce que je voulais dire, c'était que dans le meilleur cas, la mère désire le père et le désire assez pour vouloir de lui une descendance. Et puis cet homme-là désire cette femme-là et l'aime assez, la désire assez pour vouloir d'elle une descendance. Ça c'est, voilà, c'est le point de départ le plus heureux pour un enfant. Et pour ce qui est des interdits, bien, ce sont les interdits structurants, humanisants, de l'inceste et du meurtre. Et ce qui nous permet de vivre en société. Et là encore, c'est la parole du père qui est privilégiée pour donner ces interdits. Je les ai cités tout à l'heure.
Alors pourquoi pour l'inceste, on peut voir, mais pour le meurtre, expliquez-nous.
Eh bien, toujours en se référant au complexe d'Œdipe, hein, pour Freud, il y a au moment où le petit garçon veut épouser sa maman quand il sera grand, il y a aussi une affectivité qui est hostile envers le père. Alors c'est compliqué pour l'enfant, hein, c'est pour ça qu'on dit que la traversée de l'Œdipe est délicate, parce que l'enfant aime son père et a besoin de sa protection, et il le sait. Et en même temps, si ce père disparaissait, ben, il serait bien libre d'épouser sa maman. Donc il y a aussi des émotions hostiles. Et le père, par sa solidité, hein, par le fait que voilà, il est là, debout, et il n'a pas du tout l'intention de se laisser tuer par l'enfant, eh bien, il va permettre aussi de désarmer ses pulsions hostiles.
Comme une régulation de la violence, c'est ça?
C'est cela.
Dernière question, Annie Breteau, question sur ces fameuses études qui sont citées aussi souvent dans les articles et qui laisseraient entendre donc que on a pu constater, entre autres en Amérique du Nord, que la première génération d'enfants issus de couples homosexuels, ou en tout cas accueillis dans des couples homosexuels, ne seraient pas des grands traumatisés. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui est régulièrement avancé?
Alors, bon, il y a deux choses très simples. La première, c'est que l'enfant est naturellement loyal à ses parents, hein, ou en tout cas aux personnes adultes qui l'élèvent. Donc, il est évident que pour faire plaisir à ses deux mamans, entre guillemets, ou ses deux papas, toujours entre guillemets, il ne va pas aller dire qu'un père ou qu'une mère lui manque cruellement. Hein. Il va essayer de s'adapter. L'être humain est naturellement résilient et il va nous servir servir, que tout va très bien, Madame la Marquise, parce que c'est aussi dans l'intérêt de sa relation avec les adultes qu'il élève. Donc, ces témoignages, moi, je les prendrai avec une certaine prudence ou même une prudence certaine. Bon, ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est attendons la génération suivante. D'après Françoise Dolto et d'autres, il faut 3 générations pour faire un psychotique. Donc, ce trou abyssal dans la filiation n'est pas sans risque dans la suite de la généalogie de ces enfants-là. Il faudra déjà qu'ils puissent accéder à une relation amoureuse, heureuse et fécondante, parce que, ben voilà, comment est-ce qu'ils vont faire aussi, étant donné que la sexualité a été complètement évacuée de leur venue au monde, comment est-ce qu'ils vont faire, eux, pour réinventer la façon la plus classique de faire les bébés sous la couette? Bon. On peut se poser la question. On ne veut pas non plus jouer les Cassandres et leur prédire un avenir terrible, ni à leur descendance, hein, parce qu'on souhaite que, puisqu'ils existent, que tout se passe pour le mieux pour eux. Mais enfin, on ne peut pas nier qu'on joue les apprentis sorciers et qu'on risque de produire expérimentalement des psychoses. Alors, si on a le goût de l'expérimentation, ben voilà, on y va. Si on a plutôt le goût de la prudence, et c'est mon cas, on y réfléchit à 2 fois.
Voilà, et vous n'êtes pas la seule, puisque en préparant l'émission, on est tombé sur... on a pu à nouveau voir que récemment, donc, les 3 psychiatres qui ont été entendus par la commission spéciale de l'Assemblée nationale avaient un peu douché, presque conjointement, les députés, les mettant en garde. Je finirai juste votre propos sur les études en citant, vous me pardonnerez, Aude Mirkovic, qui revient dessus et qui cite, comme d'autres, l'avis lui-même du Comité national d'éthique, je trouve que c'est important, dans l'avis qu'il a rendu, est lui-même en fait critique à l'égard de ses études. Je citerai juste un passage. Si la grande majorité de ses études émettent une conclusion positive sur le devenir des enfants, les biais méthodologiques, les disparités des critères retenus et le recul encore insuffisant ne permettent pas de l'affirmer avec certitude. C'est le comité d'éthique qui lui-même tient ses propos. On fait une deuxième pause et puis on va retrouver Jean-Marc Mosqueta. Pour creuser, on va dire, encore plus, hein, non pas que ce qui a été dit n'était pas profond, mais essayer de se tourner du côté des Écritures pour voir ce qu'elles peuvent nous dire aussi du rôle et de la place du Père, comme vous dites déjà, inutile mais indispensable.
Oh,
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À quoi sert un père? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Il y avait au début de l'émission Audemir Kovic, auteur d'un ouvrage La PMA en enjeu de société, paru aux éditions Artege, qui est juriste. Annie Breteau, qui est avec nous, psychiatre retraité en milieu hospitalier et psychanalyste. Et Jean-Marc Moschetta, enseignant en théologie au sein de l'Institut catholique de Toulouse, pas, très précisément à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Dans cette dernière partie, Jean-Marc Moschetta, donc on va essayer d'aller voir du côté des Écritures. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur un terme, c'est le terme d'altérité. C'est un terme qui est revenu très souvent dans la bouche des évêques, que Audemir Kovic a cité, Annie Breteau a cité. Pourquoi c'est un mot aussi important, un mot clé? Pourquoi est-ce qu'on revient toujours quelque part un peu à ce mot?
Je dirais que c'est un mot-clé parce que elle dit une manière d'exprimer Dieu. Elle dit une manière d'exprimer la... Ça peut paraître curieux, mais dans le monothéisme chrétien, il y a la notion de Trinité qui est déjà une notion qui contient une part d'altérité. C'est-à-dire que Dieu se dit dans un dynamisme trinitaire, c'est-à-dire dans une forme d'altérité. D'autre part, l'altérité est au fondement même de l'acte créateur. Créer, c'est faire exister quelque chose d'autre que soi. Et c'est donc déjà à travers cette figure que de l'altérité que se dit la manière dont nous recevons le don de la vie à travers justement cette altérité.
Alors là-dedans, la différence homme-femme, il faut presque revenir là pour trouver à définir le rôle du père. En tout cas, vous vouliez commencer par ça.
Oui, tout à fait, parce que la Bible s'ouvre sur le propos de la création d'une humanité. D'ailleurs, c'est le premier récit de la création, au premier chapitre de la Genèse. Faisons l'humanité à notre image, il faudrait peut-être dire plus l'humanité que l'homme. Faisons l'humanité à notre image et à notre ressemblance. Et au verset 27 du premier chapitre, Dieu créa l'homme, en fait, en réalité, l'humain, à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Donc nous voyons que dans le parti pris biblique, contrairement à d'autres mythes, en particulier la mythologie grecque ou les mythes assyro-babyloniens, la sexualité n'est pas un accident. C'est structurellement voulu et béni par Dieu dans l'histoire de ce don de la création, de ce don de l'humanité. Et donc la sexualité est, ou on peut dire la différence sexuelle, est une façon de dire, de Dieu, de dire que pour être humain, pour être plus humain, il faut en fait contempler une altérité au sein même de l'humanité. C'est une très très belle chose, c'est-à-dire que je grandis en tant qu'humain, en tant qu'homme humain, en me confrontant à l'humanité de la femme. Et en tant que femme, je grandis en humanité parce que je me confronte aussi à l'humanité, comme le disait tout à l'heure Annie Breteau, à la manière dont les gestes sont posés autrement par un homme ou par une femme.
Voilà, il y a l'humanité, une fois de plus, je le répète, hein, mais on entend derrière que c'est pas qu'une histoire de génitalité, c'est voilà, une sexualité, un corps, toute une personne. Il y avait un point aussi que vous vouliez souligner, alors vous avez commencé de le faire, mais judaïsme et christianisme, même s'il y a une différence entre les deux, vous allez nous l'expliquer, sont une manière, alors là je citerai Benoît XVI, c'était une catéchèse que j'ai retrouvée, qui date un petit peu, mais son propos est vraiment intéressant. Il laisse entendre en fait que le judaïsme ou le christianisme permet une différence entre le créateur et la créature. Expliquez-nous ce point.
Oui, on peut dire que dans les religions alors pré-abrahamiques, donc les déesses mères jouaient un rôle important, c'est-à-dire que la manière de situer la divinité, c'était de célébrer la fécondité, de célébrer l'origine. La nature est notre origine commune, d'ailleurs. Et ces déesses de la nature nous disaient quelque chose du fait qu'on était, on appartenait à cette commune humanité. Dans la manière d'exprimer Dieu sous les traits d'un père, et c'est là que dire Dieu qu'il est père est une, je dirais, un peu une originalité judéo-chrétienne, c'est une manière de dire aussi l'origine, mais de la dire de manière moins certaine, moins évidente. Ça exprime quelque chose qui ne va pas de soi et qui laisse place à l'appropriation par la créature de se reconnaître créée. C'est-à-dire...
Donc ça fait sortir d'une forme de fusion, c'est ça?
Ça fait sortir d'une forme de certitude ou d'une évidence qui reprend l'adage romain « mater certa, pater incertus ». C'est-à-dire il y a toujours une incertitude de la paternité. Et cette incertitude est un espace créé, un espace de liberté que chaque homme et chaque femme peut investir en disant à Dieu qu'il est son père, qu'il est effectivement reconnu comme tel et que ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé, qui est évident.
Alors, est-ce que vous pourriez creuser ce point, le titre de votre conférence, parce que donc vous avez donné une conférence en début de semaine, c'était « Je suis ton père ». Alors, vous reprenez donc cette célèbre formule issue de la guerre des étoiles, hein. Mais à vous entendre, oui. En fait, il y a « Je suis ton père » et puis après, il y a « Tu es mon père ». Expliquez-nous une fois de plus en quoi le christianisme se singularise et permet en fait cet espace de liberté et pour créer une alliance, comme on dit.
Il y a une singularité dans le caractère universel. Dans le judaïsme, la judéité, le fait d'être juif, qui est juif, c'est une question classique, eh bien, est juif, est celui qui est né de mère juive ou bien qui s'est converti au judaïsme. Dans le christianisme, celui qui est chrétien, c'est celui qui se réclame, qui suit le Christ, c'est-à-dire celui qui confesse. C'est en cela que le christianisme est une confession. Et dans la manière de se dire père, on hérite de l'oracle de Nathan. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est une très très belle prophétie qui nous dit que la paternité nous institue aussi comme des fils et donc des frères aussi. Et donc ce double effet de la paternité est une, on peut dire, une originalité chrétienne, d'autant plus forte que Jésus lui-même s'est adressé à son père dans un rapport d'intimité et avec ce fameux Abba Père. C'est donc une façon très intime de se dire le fils.
Mais Jean-Marc Mosqueta, quand on scrute les Écritures avec un peu plus de précision, on dit aussi que Dieu a des entrailles de mère. On l'a souvent dit à cette antenne, et pas qu'à cette antenne, à l'occasion de l'année de la miséricorde qui avait été voulue par le pape François. Il y a même un terme hébreu qui parle justement qui dit cela. Dieu n'est pas sexué. Donc comment faut-il comprendre
Absolument,
père.
Une ambiguïté évidemment qui est récurrente, c'est que de Dieu le Père, on a pu en déduire que Dieu était masculin. Et Dieu n'est pas masculin, pas plus qu'il n'est féminin, c'est pas parce qu'on lui attribue des traits, disons, habituellement attribués à l'homme ou à la femme, qu'il a une sexualité. Dieu crée la sexualité, il n'est pas sexué pour autant. Et on trouve bien sûr dans la Bible de nombreuses références à des gestes très maternels. J'en citerai une qui est le prophète Osée au chapitre 11. « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. C'est moi qui lui ai appris à marcher, qui ai appris à marcher à Éphraïm, et qui l'ai porté dans mes bras, etc. » Et un plus loin, « J'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues. Je me penchais vers lui pour lui donner à manger. » Voilà, on trouve de nombreuses références dans les psaumes. Dieu est comparé à une mère poule sous les ailes de laquelle l'homme vient s'abriter, et ainsi de suite. Donc,
Pourquoi fait-on ce choix d'appeler au final Dieu Père ?
Parce qu'au final, cela permet de rappeler que l'homme est créé et non pas engendré. L'homme est une créature, il n'est pas une émanation du Père, il est une créature. Et c'est là que la séparation entre l'homme et Dieu, qui est typique des monothéismes, est instaurée. Cette espèce de coupure qui n'est pas un absentéisme, qui n'est pas une élision, qui n'est pas une mise à distance définitive, mais qui est au contraire une coupure pour mieux affirmer sa présence.
C'est-à-dire que Dieu aimerait tellement en fait l'homme qui lui permettrait d'être suffisamment à distance pour être libre d'aimer. Est-ce que c'est une manière
de façon, en effet, d'instaurer une liberté. On voit bien dans l'histoire d'Israël que c'est l'histoire d'un fils aîné, d'un enfant difficile. Cet enfant difficile qu'est le monde des humains et contre lequel Dieu se rapproche sans cesse. Et le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne cesse réadopter ce fils rebelle qui est le peuple des croyants. Et donc ça, c'est vraiment très très typique. C'est la raison vraiment pour laquelle, et je pense la plus profonde, pour laquelle la théologie judéo-chrétienne, en particulier encore plus la théologie chrétienne, a réaffirmé, a exprimé le Dieu par sa paternité essentiellement.
Eh ben merci beaucoup, et comme quoi tous ces événements nous permettent de contempler des grands mystères et des choses splendides, on y reviendra. Une émission ne suffit pas à faire le tour de la question, loin s'en faut. On va citer quelques livres pour ceux qui voudraient aller plus loin. On va reciter l'ouvrage d'Aude Mirkovic, La PMA, un enjeu de société, paru aux éditions Artege. Et Annie Breteau me tend deux livres, Jean-Pierre Winter, on dit, c'est ça, hein, L'avenir du père, il est psychanalyste, L'avenir du père, c'est paru aux éditions Albin Michel, on l'a vu beaucoup dans les médias, et un qu'on a moins vu dans les médias, mais tout aussi passionnant et pertinent, peut-être le plus connu de ceux qui sont habitués de la presse chrétienne, Christian Flavigny, et il n'intervient pas parce qu'il est chrétien, mais il est pédopsychiatre et psychanalyste, et le titre de son livre, Le débat confisqué, paru aux éditions Salvator, je les répète pour ceux qui par hasard prendraient des notes, PMA, un enjeu de société, Aude Mirkovic, édition Artege, L'avenir du père, Jean-Pierre Winter, Albin Michel, et Le débat confisqué, Christian Flavigny aux éditions Salvator. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour cette émission passionnante qui sera rediffusée donc à 21h. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez donc la réécouter ce soir ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.